matin, vous raconter l'histoire d'une femme normale. Je vous devine déjà un peu déçu. Vous auriez préféré que je vous raconte l'histoire d'une femme hors norme. Eh bien, peut-être que ça fait justement partie du problème que nous allons évoquer ce matin. Oui, une femme normale. Sympa, compétente, intéressante, passionnante, douée, mais normale. Désolé, drôle, authentique, cash, lucide, mais normale. Pourquoi est-ce que j'insiste? Parce qu'elle aurait pu ne pas. Elle qui a si souvent côtoyé l'anormal, le hors norme, le sauvage, le monstre. Elle vient de couvrir le procès d'un chirurgien agresseur et violeur qui a fait 299 victimes et dont l'expert psychologue a déclaré qu'il n'avait jamais observé en un seul homme autant de déviance sexuelle. Par le passé, elle avait suivi le procès d'Outreau et cette justice qui a dysfonctionné d'une manière exceptionnelle. Grand reporter, souvent sur des scènes de guerre, de l'Irak à la Syrie, en passant par l'Ukraine, elle essaie de rendre compte du fracas du monde et c'est ainsi qu'elle se retrouve prise en otage. Elle passera 5 mois dans une cave en Irak et en reviendra en étant bien obligée de constater que ça va plutôt bien, désolée. En France, elle enquête par exemple sur l'histoire d'une femme tuée de 28 coups de couteau dans le bureau de poste où elle travaillait, ou sur une femme sauvage, recluse au fond de la forêt des Cévennes. Mais elle traverse tout ça avec toujours cette simplicité et ce sourire. À croire que l'éthique journalistique, l'amour du travail bien fait et la fidélité à ce qui compte pour soi sont des piliers assez solides dans une existence. Rester normal quand on traverse tout ça, voilà qui me semble au moins aussi fascinant que la psychologie d'un monstre qui a profité de sa blouse blanche pour faire 299 victimes. Mais nous ne sommes pas habitués à voir les choses comme ça. Nous sommes bien plus curieux des monstres, des salauds et des déviants que de ces humains éblouissants, capables de rester normaux, simples, sympathiques et le cœur ouvert au cœur de la tempête de l'existence. Mais pourquoi donc? N'est-il pas temps que ça change? Notre fascination pour le monstrueux n'est-elle pas en partie problématique? Et si les gens normaux étaient en fait plus exceptionnels, plus fascinants que les prédateurs ou les assassins? Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir une femme qui va peut-être nous éclairer. Grand reporter au Monde, elle a notamment publié La Méprise, L'Affaire d'Outreau, Le Quai de Ouistreham, L'Inconnu de la Poste ou Ici et ailleurs, tous des grands succès de librairie aux éditions de l'Olivier. Partisane d'un journalisme d'immersion, après avoir suivi les 3 mois du procès de Joël Le Scouarnec, Florence Aubenas est avec nous ce matin sous le soleil de Platon et en sa compagnie. Nous allons nous demander ce que cache notre fascination pour les monstres et surtout ce que nous attendons pour regarder enfin vraiment les autres, tous les autres.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Florence Aubenas.
Bonjour à tout le monde.
Vous allez bien?
Oui, très bien.
Ça me fait très plaisir de vous recevoir. Et on va commencer par parler de ce procès, Joël Le Scouarnec, et par entrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que ce personnage vous a, au sens propre, fasciné?
Non. Il n'avait rien de fascinant parce que c'est vrai qu'on s'attend à voir dans un box quelque chose qui vous frappe, et en fait, c'est un peu, en tout cas, dans son apparence, dans sa manière de s'exprimer, dans sa façon d'être, c'est a priori un petit retraité.
Ouais.
Donc c'est un petit monsieur, un peu trop gros, un peu trop chauve, qui est assis là, les mains sur les genoux, et a priori RAS.
Ouais.
Et c'est ça qui est justement très particulier, c'est-à-dire qu'il a une vie, même telle qu'elle est racontée, presque ennuyeuse. Un des experts, justement, vous citiez les experts psychiatres du procès,
ouais,
disait qu'il a une vie minable, il n'a pas vraiment d'amis. Sa famille lui a un peu tourné le dos. Il vit seul dans une maison très isolée. Voilà, donc c'est une toute petite vie. Mais la chose qui est terrible et la chose qui est très particulière à ce procès et que moi je n'avais jamais vue, c'est que en fait il tient ce fameux journal,
ouais,
qui sera la raison pour laquelle il sera arrêté, c'est-à-dire que des enquêteurs tombent sur ce journal et tout à coup se rendent compte qu'il tient le décompte de victime par victime, tous les crimes sexuels qu'il a commis depuis qu'il est là. Et il le tient comme le tient un prédateur, c'est-à-dire que moi c'est la première fois où on rentre dans la tête d'un monstre. C'est-à-dire qu'en lisant ce journal, et il était lu tous les jours à l'audience devant les victimes, vous voyez les gens comme des proies, vous voyez ce qu'ils pensent, vous voyez comment il agit, il décrit « je pousse la porte, je rentre, il n'y a personne, là je dois fuir, là je vois telle personne sur tel lit, etc. » Et ça, c'est un choc terrible, c'est-à-dire de tout à coup être dans la tête d'un monstre.
Et finalement, si on reprend ça à la thèse de Hannah Arendt de la banalité du mal, quelque part, elle ne s'applique pas vraiment ici. Parce que justement, il ne se contente pas d'être un fonctionnaire, de faire ce qu'on lui dit. Il a cette initiative, ce carnet de notes, comme un prédateur ultra conscient, en fait.
Oui, et l'autre chose qui est très particulière aussi, c'est qu'il opère vraiment. C'est-à-dire, c'est un chirurgien, est un chirurgien qui opère et qui tient, comme tout chirurgien, un compte-rendu opératoire. Donc, il voit un petit garçon ou une petite fille le matin. Il va poser son diagnostic, il va l'opérer, faire un compte-rendu opératoire, ça avec une main, et avec l'autre main, le soir, il va faire son journal. Et ce même enfant qu'il va opérer le matin, il va le violer l'après-midi. Et cette façon d'être coupé en deux, d'être clivé en deux, est vraiment incroyable.
Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de systémique aussi dans cette monstruosité ? Je m'explique, lui, il est évidemment un individu, mais on s'aperçoit, quand on regarde le procès, qu'il y avait d'autres médecins qui savaient des choses. Je me souviens de l'un qui a dit en larmes, « Oui, mais en fait, j'avais peur, si je le dénonçais, d'être accusé par l'ordre des médecins de rompre la confraternité, enfin il faut quand même le faire. Un autre qui disait, ça c'est encore plus déprimant, oui mais nous on pense que chaque chirurgien est le roi dans sa salle, il fait ce qu'il veut chez lui et ça me regarde pas, c'était son affaire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème systémique du coup ?
Si, bien sûr. Et c'est ce qu'a révélé le procès. Alors c'était des moments assez particuliers, c'est-à-dire qu'au départ, des médecins étaient convoqués pour raconter ce Joël Le Squarnec qu'ils avaient côtoyé comme un confrère, et donc ils étaient entendus par la cour. Alors, le avocat, magistrat, etc., au départ, je ne dis pas qu'il y avait un entre-soi, mais on se donnait du docteur et du madame la présidente, et du... Voilà, c'était un monde d'une certaine notabilité, pour le dire ça. Même si ça n'est pas, on ne peut pas le résumer comme ça. Et au bout d'un moment, ces médecins étaient absolument comme vous le dites, c'est-à-dire qu'ils disaient, oui, alors j'avais appris qu'il a été condamné pour avoir visionné des images pédopornographiques, mais je l'ai appris juste après qu'il ait quitté notre hôpital pour aller vers un autre. Alors la présidente lui demande, mais alors vous avez appelé cet autre hôpital pour le leur signaler ? Ah ben non, ça, comme vous le dites, ça n'était plus mon affaire, il n'était plus chez nous. Et donc, on sentait du côté des magistrats et de toute la cour monter une espèce de tension, et cette espèce de bonhomie au départ a commencé à mal tourner au bout d'un moment, et les échanges étaient très... Il y a même un chirurgien qui a été poursuivi pour faux témoignage.
Bien sûr.
Les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères, c'est ça qu'on doit regarder. On n'est pas là pour les éliminer, on est là pour les faire changer. Mais il faut passer par un moment où ils se regardent, où on se regarde. C'est ça qu'il faut faire.
Alors ça, c'était Adèle Haenel qui dit que ça n'existe pas. Il y a deux choses dans cette prise de parole. L'idée de systémique, on l'a déjà évoquée. Et puis une autre idée, est-ce qu'on aurait envie de ça ? Est-ce qu'on a envie de l'espérer ? Est-ce que c'est le sujet ? Est-ce qu'on pourrait faire changer quelqu'un comme Joël Le Squarnec ? Je pose la question parce que au moment du verdict, beaucoup de victimes ont été déçues qu'il n'ait que cette peine-là, parce que elles auraient souhaité qu'il n'y ait aucune possibilité qu'il sorte jamais de prison.
Je ne sais pas. Je pense que c'est l'affaire d'experts, de psychiatres, etc. Moi, est-ce qu'on fait changer les gens ou pas ? Je vous avoue que je n'ai pas de réponse à cette question-là. Ce qui est très particulier, et ce que je retiens dans ce qu'elle dit, c'est une chose très précise, c'est-à-dire que, de fait, par exemple, la famille de Joël Le Squarnec, qui, au fur et à mesure, tout le monde sait, au bout d'un moment, qu'il a abusé, commis des crimes sexuels contre des nièces, des amis, des enfants d'amis, etc., etc. Donc ça se sait dans la famille, on en parle au baptême, on le murmure au mariage, etc. Ah, tu as appris pour lui, bon. Et donc, c'est quelque chose qu'on sait. Et pourtant, personne ne va le dénoncer. Il y a un tabou qui va rester dans la famille. Et ce qui est d'autant plus étrange, c'est que dans cette famille, on peut faire des procès quand on veut.
Ah bon ?
Oui, et c'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire où on place le curseur, le moment où on va dénoncer quelqu'un de sa famille. Et bien dans la famille Le Squarnec, on le fait, et je pense qu'elle n'est pas la seule, on le fait quand il y a un problème d'héritage. C'est-à-dire qu'à un moment, on accuse les Le Squarnec d'avoir détourné une partie de l'héritage, ils seront d'ailleurs condamnés pour ça. Et là, par contre, on va en justice. Mais on n'y va pas quand la nièce, etc., est mise en cause. Et pourtant, ce sont les mêmes personnes. C'est la mère de cette nièce qui va porter plainte. Donc, il y a là quelque chose. Pareil pour les médecins. C'est-à-dire qu'à certains moments, il y a des médecins qui sont suspendus. le Scornac lui-même va être poursuivi par l'Ordre des médecins. Pourquoi il va être poursuivi? Non pas pour avoir consulté des images pédopornographiques, mais parce qu'il n'a pas fait son préavis dans une clinique. Donc c'est toujours très intéressant de voir à quel moment une société et ses institutions vont mettre le curseur où ouais. « Ah non, là, ça va trop loin. Ben, » ça va trop loin quand on ne fait pas son préavis. Quand on visionne des images pédopornographiques, on peut le supporter. Et c'est ça qui est très troublant et terrible quand on se regarde dans ouais. un miroir, comme dit Adèle Haenel.
Et c'est ça aussi qui a choqué notamment les victimes, puisque certaines ont dit, après le verdict, que ça avait fait moins de bruit que l'affaire des viols de Mazan, qu'il y avait eu moins de mobilisation, qu'il y avait eu moins de gens à la sortie du tribunal, que ça avait aussi fait moins de bruit que Bétarame. Comme s'il y avait eu quelque chose qui était passé ici, d'une certaine manière, plus inaperçu. Comment vous l'interprétez ?
Pourquoi quelque chose? Alors, je pense que ça n'est pas passé inaperçu. Hein, et...
C'est elle qui le dit.
Oui, hein, oui, bien ouais. sûr. Je pense que ça a été quand même un procès très suivi, avec beaucoup de... Je pense qu'il y aura un certain nombre de conséquences. Ouais. Mais
la loi pourrait changer, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le fait que la peine ne soit pas suffisante d'après les victimes, ça, la Cour n'y peut rien. Je veux dire, on ne peut pas être condamné à plus de 20 ans de prison pour ce type de crime. Donc, est-ce qu'il faut changer la loi? C'est l'affaire des députés. C'est pas la justice ne peut condamner qu'aux peines prévues par un code pénal. Donc, ça... on peut le déplorer, mais il faut s'adresser aux députés, donc ouais. c'est autre chose.
Mais alors, la question que je voulais aborder avec vous, c'est aussi celle du monstre, parce que vous avez dit vous-même, moi je n'ai pas été fasciné par cette personne, et il se trouve que souvent, c'est ce que disait notamment Neige Sino dans son très beau livre Triste Tigre, eh bien souvent la société s'intéresse plus aux bourreaux qu'aux victimes. On est plus fasciné par les monstres, les déviants, que par leurs victimes. Et je me souviens d'ailleurs avoir été choqué, je ne sais pas ce qu'il en a été de vous, quand Michel Fourniret a été souvent en une des hebdomadaires, je crois que c'était peut-être Paris Match ou le Nouvel Obs, et je m'étais dit, en voyant Michel Fourniret en une comme ça, mais ça doit être son rêve en fait, d'être en une comme ça d'un magazine, lui le pervers qui se croit tout puissant. Il y avait peut-être aussi d'ailleurs chez Joël Le Scouarnec, quand il note comme ça tout ce qu'il fait, un délire de toute puissance, comme chez les grands pervers. Est-ce que ça, c'est pas un peu un des scandales de notre époque? Ça me fait aussi penser à ces djihadistes dont on connaît le nom et le prénom, alors qu'on connaît pas le nom et le prénom de toutes leurs victimes.
C'est vrai que la manière dont sont perçues les victimes, c'est un des grands changements aujourd'hui. Et ça, c'est vrai que c'est un changement de société qui a été porté par plusieurs personnes. Et c'est assez étonnant. Alors, je vais vous avouer quelque chose au départ. Ça a été porté bizarrement par Nicolas Sarkozy,
ouais.
qui recevait les victimes à l'Élysée, qui a fait tout... Et ça a été très, au départ montré comme du populisme. Et je ne vous cache pas que moi aussi, je le pensais un peu.
Ouais.
Et je me disais, ouais, enfin, c'est à chaque fait divers, une nouvelle loi qui va durcir le code pénal, etc. etc. Mais cette prise en compte des victimes, finalement, faite autrement que la manière dont le faisait le président Sarkozy, est finalement une bonne chose. Et c'est vrai que là, par exemple, durant ce procès de Le Scouarnec, une partie des journalistes, je ne dis pas refusaient de couvrir Joël Le Scouarnec, mais disait, pour nous, l'important, c'est les victimes. Et on fait peut-être 80% des papiers sur les victimes et 20% oui. sur Joël Le Scouarnec. Alors, quand c'est le procès, c'est quand même problématique, c'est le procès de Joël Le Scouarnec. Donc, on ne peut pas à la fois dire, il aurait fallu le dénoncer plus tôt, et à la fois ne pas parler de lui. Donc, il faut savoir de qui on parle. Mais c'est vrai que cette prise en compte des victimes, c'est quelque chose de nouveau et qui, finalement, se révèle extrêmement important. Et c'est un vrai changement de société.
Et je vous pose la question à vous, parce que dans votre travail, il y a des moments où vous voyagez de par le monde, où vous couvrez des faits exceptionnels, mais vous avez aussi une autre partie de votre travail, par exemple dans le quai de Ouistreham, où vous allez voir des gens, on va dire, normaux, que souvent on appelle les petites gens ou les invisibles, mais je pense que c'est mal dit, parce qu'ils ne sont invisibles que par ceux qui ne les voient pas, mais ils ne sont pas invisibles pour d'autres gens. Et justement, une partie de votre travail, c'est aussi de montrer ces d'autres vies que la vôtre, de les rendre visibles, et donc de les mettre au centre, en fait, de vos livres, de vos reportages, de votre travail. Et donc c'est paradoxal, en même temps, de couvrir le procès d'un monstre et que son visage efface celui des victimes.
Alors je pense que là, c'est de moins en moins le cas. Et je pense que pour Joël Scouarnec, ça n'a pas été le cas, cet effacement. Le procès de Gisèle Pellicot, par exemple, a justement montré, je ne dis pas l'inverse, mais c'était elle
qui aimantait. C'est ça le changement.
C'est ça le changement.
Et c'est un vrai changement.
Ah oui, et c'est formidable. Et c'est vraiment un... une façon vraiment très forte, d'une évolution très forte de la société. Mais c'est vrai que déplacer le regard et l'endroit d'où on regarde, c'est une chose très particulière. Et ce procès-là, par exemple, nous a appris ça. Pendant longtemps, on a pensé qu'une victime qui n'avait aucun souvenir, donc une victime dont on abusait, qu'on maltraitait sous anesthésie, par exemple, qu'est-ce que ça peut lui faire? Elle ne se souvient de rien. Et là, on avait 299 victimes, dont une bonne partie sous anesthésie. Donc vous avez un certain nombre de symptômes vus sur une cohorte de personnes, pardon de parler en termes de statistiques. Ouais. Mais, et donc on se dit, toutes ont les mêmes symptômes, toutes disent la même chose, toutes ont pensé la même chose. C'est bien qu'il y a quelque chose. Et donc il y avait des pans entiers d'idées reçues en fait, qui sont tombées. Et c'était passionnant.
Et ben voilà, et c'est aussi tout votre travail de grand reporter, de journaliste, de déplacer le regard, de montrer, d'ouvrir la focale sur autre chose. Et je trouve ça intéressant de souligner qu'on est dans un basculement de civilisation. Et j'évoquais tout à l'heure le livre de Neige Sino, Triste Tigre, qui raconte aussi ça. Parce qu'au début, elle dit que dans son village, quand son bourreau, son violeur, donc son beau-père, est sorti de prison, tout le monde s'intéressait à lui, comment il refait sa vie, comment il a d'autres enfants. Et que finalement, on s'intéressait moins à elle. Elle a d'ailleurs dû fuir la France, notamment pour ça. Mais en même temps, ce qui est passionnant dans son livre, c'est que Il est superbe, c'est un chef-d'œuvre. Et du coup, c'est son regard à elle de victime qui devient plus intéressant et qui est plus passionnant, plus fascinant que celui de son violeur. Et je pense que le procès que vous avez couvert, il va aussi dans ce sens-là. Il indique aussi ce basculement, et il était temps, de civilisation.
Sur les lèvres, et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. On dirait que sans les poings, on est toujours aussi balèze, et que les fenêtres nous apaisent. Sur les braises, on dirait que les pirates nous assiègent, et que notre amour c'est le trésor. On dirait qu'on serait toujours d'accord. Qu'il est toujours des os et les déesses, goûter aux alentours, souvent changer d'adresse. Ceux qui nous entourent, l'extension de nos corps, quand nous sommes à l'écart, mineurs, chercheurs d'or.
C'était Alain Bashung sur un trapèze.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Florence Aubenas sous le soleil de Platon et nous parlons de votre couverture du procès de Skouranek. On va changer de sujet, on ne va pas passer toute l'émission là-dessus, je vous rassure. Mais quand même, dans le passé, vous avez couvert Outreau, alors une autre affaire judiciaire, vous avez fait un livre très important. Là, vous avez envie de faire un livre, vous avez aussi fait L'inconnu de la Poste sur un fait divers. Et là, il y a un livre qui se prépare ou pas?
Ah non, pas du tout. C'est-à-dire que moi, 3 mois avec le Skouranek, c'est suffisant. J'ai pas tellement envie de le côtoyer davantage.
Il n'est pas assez intéressant, du coup.
Tant
mieux.
Oui, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire, c'est la chose incroyable, c'est cette espèce de gouffre entre la platitude de sa vie et l'horreur de son journal. Et c'est cette espèce de type qui se révèle comme toute puissance. Certains experts racontaient qu'il passait plus de temps à écrire son journal et à révéler les actes dans ce journal, à écrire les actes qu'il avait faits, qu'à les commettre. Et donc, le plaisir était de les écrire en partie.
Alors justement, puisque vous n'avez pas envie de passer plus de temps avec lui, ben nous non plus, on va maintenant parler plus généralement de votre travail de journaliste, votre rapport au réel, votre rapport à l'écriture. Moi, j'adore votre écriture qui est très précise, il y a une construction, enfin, ça nous tient à chaque fois. Mais ce qui est troublant dans votre histoire, je crois, c'est que vous avez commencé, enfin, ça vient du journalisme, au fond, il n'y avait pas de désir d'écriture avant.
Pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup ça. Et d'ailleurs, je suis rentrée dans le journalisme par la porte technique, en fait. Je suis rentrée comme secrétaire de rédaction, c'est-à-dire les personnes qui relisent les papiers des autres, qui les titrent, qui les mettent en forme. Et ça me convenait très bien. Et c'est presque un hasard où on m'a demandé de faire du reportage, et c'est ce que j'ai fait. Et ça a été vraiment, j'ose pas dire une drogue dure, mais il y a quand même de ça, hein.
J'imagine que parfois vous arrivez quelque part et ça se passe pas du tout comme prévu. Vous dites
jamais.
Qu'est-ce que je fous là, quoi.
Oui. Ouais. Ah non, jamais comme prévu. Non, c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est-à-dire c'est aller quelque part. On a plein d'idées. On se dit ça va être comme ci, ça va être comme ça. On a évidemment on prépare tant qu'on peut en tout cas les sujets et quand on arrive. Dieu merci, ça ne ressemble absolument pas à ça. Donc on oublie tout ce qu'on savait et on se balance dans ce qui se passe. Alors ça, c'est la première des choses. Donc la réalité n'est jamais tout à fait celle-là. Mais surtout, nous, on écrit sans connaître la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'on écrit sans savoir. Il y a un cyclone à Mayotte, on ne sait pas comment ça va se terminer. Est-ce que les secours vont arriver à temps? Oui, non. On va en Ukraine, on ne sait pas comment la guerre va se finir. Et cette espèce d'exercice sur le vide, comme ça, c'est ce que j'aime dans mon métier.
Et le réel est toujours plus fort que ce qu'on en pense, que ce qu'on imagine?
Ah, il n'est jamais là où on l'imagine, en tout cas, ça c'est sûr. Donc, il vous attend, il vous prend par surprise, c'est sûr.
Donc vous n'avez pas d'effort à faire pour maintenir votre capacité d'étonnement, finalement. Je pose la question parce qu'en philosophie, par exemple, on doit cultiver cet art de l'étonnement, mais qui est parfois pas facile, parce qu'on s'habitue à des choses qui semblent normales alors qu'elles ne le sont pas. J'ai l'impression que dans votre métier, le grand reporter, bah vous n'avez pas ce problème. Il n'y a pas besoin de faire un grand effort pour garder les yeux étonnés, quoi.
Oui, ça dépend. C'est-à-dire que parfois, on peut se laisser entraîner, on peut être pas au bon endroit, on peut ne pas se laisser entraîner. Il y a des moments où il faut savoir dire j'allais à gauche et finalement aller à droite. Je me souviens d'un reportage que je faisais sur les inondations, donc voyez, et qui était près de Bordeaux, le long de la Garonne, bien sûr. Et donc j'arrive et il y a un embouteillage à un rond-point. Je me dis, ça doit être les inondations, ça a dû déborder, etc. Les gens se mettent à klaxonner. Bon, et là-dessus, à ce rond-point, finalement, tout le monde s'arrête. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est les gilets jaunes qui bloquaient. Et là, on se dit, bon, ben, il faut arrêter les inondations, il faut faire les gilets jaunes.
La vraie inondation,
c'est celle-là.
En tout cas, heureusement. Et c'est ce qui fait que vous êtes une des premières à avoir compris que quelque chose était en train de naître, qui était fou. Mais justement, dans notre société aujourd'hui, on a souvent cette idée qu'il faut tenir son cap, qu'il ne faut pas lâcher l'objectif initial, qu'il faut rester concentré sur l'objectif. Et ce serait la manière de rater la réalité sociale en train de bouger.
Ah oui, les gilets jaunes n'étaient pas un embouteillage, c'était un fait de société.
Et ce n'était pas non plus une inondation.
Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est particulier. Alors, si vous voulez, après, il faut décrocher son téléphone et dire au journal, bon ben, pour les inondations, alors il y a toujours un petit moment un petit coup de fil qui est difficile à passer. Pour les inondations, je ne vais pas le faire et je vais faire les gilets jaunes. Donc, mais bon, c'est... c'est une façon de faire, mais c'est ça qui est incroyable et c'est ça qui est merveilleux dans ce métier, en fait.
Et quand on pense d'ailleurs que finalement rien n'a été réglé depuis les Gilets jaunes, au fond, il y a eu comme un immense carnet de doléances qui est apparu. Rien n'a été réglé. On est encore en France, pour l'instant, pas tombé dans le populisme, enfin jusqu'à aujourd'hui. Vous pensez que c'est quoi exactement le rôle du journalisme par rapport à ça?
Par rapport à, vous voulez dire, aux mouvements sociaux
Par rapport à éviter qu'on tombe dans le populisme complètement.
Je ne sais pas quel est le rôle du journalisme. C'est-à-dire, moi je suis journaliste, je suis reporter. Donc ce que je fais, mon travail, c'est de montrer une chose qui se passe à un moment donné et à un endroit donné. Donc c'est un rôle à la fois immense et très modeste. C'est-à-dire que il est aussi très circonscrit, il est aussi très compliqué. Donc, montrer ça, pour moi, c'est le rôle qu'on peut avoir. J'aimerais qu'on puisse dire, voilà, je fais un papier définitif sur un sujet, et il y aura un avant-après, et après, cette problématique va basculer, et tout va changer. Je pense que beaucoup plus humblement, on est une pierre de l'édifice. Et que donc c'est une condition, le journalisme est une condition nécessaire, malheureusement pas une condition suffisante.
Et est-ce que le fait divers est une fenêtre particulièrement intéressante sur l'époque? Parce que vous avez beaucoup travaillé sur des faits divers, vous avez fait des livres. On va écouter ce que dit Philippe Génada, l'écrivain, qui lui aussi s'est penché sur certains faits divers.
Pour moi, c'est simplement le fait divers, c'est un moyen d'entrer quelque part. Grâce au travail des enquêteurs et tout ça, on dispose d'une somme, d'une masse de témoignages, de rapports, de regards des gens sur la scène ou sur le suspect, ou qui permet d'aller à l'intérieur de la société, d'aller à l'intérieur des gens.
Alors c'est vrai, je suis d'accord avec lui, ça permet d'aller à l'intérieur de la société, ça permet d'aller de façon beaucoup plus trouble à l'intérieur des maisons. Donc, chez quelqu'un, tiens, chez eux, ça se passe comme ça. Enfin, à un moment, on regarde par le trou de la serrure, quand même, un fait divers. Donc, c'est quelque chose de très particulier. Ouais. Donc, il y a ça, il y a ce que c'est. Et surtout, ça questionne les institutions. Donc, on en a parlé pour l'hôpital, on en a parlé. Comment a fonctionné la justice? Comment a fonctionné la police?
La poste.
Oui, c'est ça. Mais c'est un vrai. Et donc, si vous voulez, c'est une espèce de coupe à travers tout, c'est-à-dire à travers la maison, l'humain. Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille untel pour que ça ait pu avoir lieu? Qu'est-ce qui se passe un peu plus loin dans la société? On rentre dans un milieu social, etc. Et ensuite, comment les institutions ont réagi? Comment la police a fonctionné? La justice a fonctionné? Comment le milieu social a fonctionné? Donc c'est une coupe franche à travers, j'ose pas dire tout, mais si, c'était vraiment à travers ça, y compris la tête d'une personne.
Le fait divers comme une sorte de trouée, de déchirure dans le réel.
Exactement, c'est exactement ça. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il fascine tant. C'est-à-dire qu'il est, chacun, à un moment donné, il trouve son compte. Alors il y a des dosages différents suivant les faits divers, mais c'est des moments vraiment fascinants.
Il n'y a pas de faits divers qui ne disent rien?
Oh si, bien sûr qu'il y en a qui disent moins, en tout cas. Oui. En tout cas, ils ne disent rien au public. Ils disent toujours quelque chose aux personnes qui sont confrontées, bien sûr.
Alors pour revenir sur votre méthode de travail, je voudrais qu'on revienne sur le quai de Ouistreham, où là, vous êtes fait passer pour celle que vous n'étiez pas. Vous avez été au chômage, vous avez gardé votre vrai nom et votre prénom, et vous avez travaillé avec des femmes de ménage. Dans ce cas-là, votre façon de rencontrer le réel passe quand même par une petite fiction.
Elle passe par une grande fiction. Et alors, il y a comme moi que alors, si vous voulez, il y avait un petit côté, moi, je ne dis pas que ça m'a plu, mais c'est vrai que quand j'étais étudiante en journalisme, si certaines grandes figures du journalisme m'ont marqué, c'était pas Hemingway, c'était pas les Jules Multipoche, c'était pas tout ça, c'était plutôt Günther Wallraff, c'est-à-dire cet Allemand qui s'est déguisé en Turc.
Tête de Turc,
exactement. Ou des expériences comme celle-là, donc moi, c'était vraiment ça. Et quand je me suis dit, tiens, je vais le faire aussi, j'ai eu une espèce de vertige en me disant, est-ce que je vais en être capable, est-ce que... Et donc, évidemment, on s'invente une petite fiction. Donc, on dit, je vais dire que je suis une femme de plus de 50 ans, moi, et je n'ai pas de diplôme, et donc je postule, je me présente à Pôle emploi à l'époque, France Travail aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'avais prévu une petite légende, comme on dit bêtement, c'est-à-dire, alors j'étais mariée à quelqu'un, et ce quelqu'un m'a larguée, et alors on habitait à tel endroit, il était garagiste, et voilà, je m'étais inventé une vie avec un certain bonheur, je ne vous le cache pas. Et donc, c'est toujours, voilà, il y a toujours un côté comme ça de fiction qui est intéressant. Et donc, je m'apprêtais à la dévider devant la personne de Pôle emploi. Et j'arrive au moment où ça, et je le voyais pas très intéressé, c'est-à-dire qu'il me regardait même pas, il notait sur son carnet, et je lui dis bon voilà, alors voilà, puis il m'a largué, et à ce moment-là seulement le type lève les yeux et me dit oui, pour une plus jeune sans doute. Et donc là vous êtes bien dans le réel.
Voilà. Bienvenue dans le désert du réel. Et ce livre a été adapté au cinéma par Emmanuel Carrère, et on va écouter justement ce qu'il dit de votre démarche.
Dans le fait de se faire passer pour qui on n'est pas, il y a tout de même une ambiguïté morale que je ne cherche pas à critiquer, mais que je cherche que j'ai mis en lumière. On raconte l'histoire de quelqu'un qui est infiltré avec l'espèce de suspense que ça favorise. Est-ce qu'elle va être démasquée? Tout ça crée quelque chose d'un peu, vous voyez, comme des films d'Hitchcock ou choses comme ça.
Vous avez été démasqué d'ailleurs.
J'ai été démasquée par une personne, oui, c'est vrai. C'était une jeune femme, donc je postule pour un emploi et je vais. C'est une agence d'intérim. Et elle a tourné l'écran d'ordinateur vers moi et elle avait regardé sur Google qui j'étais. Et donc, c'était assez marrant d'ailleurs, parce que quand j'ai raconté ce bouquin à Caen, donc c'est, tout ça se passe à côté de Caen. Et au premier rang, je racontais le livre, et c'était une conférence, au premier rang, il y avait deux personnes très bien habillées, style on va à un mariage, enfin. Ouais. Et je les regardais, vous savez, quand on fait des conférences comme ça, parfois on se raccroche au regard de quelqu'un. C'est ceux que je regardais pendant toute la conférence. Et à la fin, donc la conférence se termine, ils se lèvent, ces deux personnes se lèvent, brandissent le livre et crient « Nous sommes les parents de la seule personne qui a démasqué Florence Aubenas. »
Ouais.
Et la salle s'est levée en triomphe, et ils sont assis à côté de moi et dédicacaient le livre également. Donc c'était...
C'est émouvant. Et vous racontez à la fin quand même que donc c'est celles qui étaient devenues des copines avec lesquelles vous nettoyez les toilettes toute la journée, quand elles ont découvert ça, elles l'ont pris bizarrement, pas si mal d'ailleurs, mais la distance est revenue, et finalement l'éloignement social, et elles se sont mises à vous voyez, après vous avoir tutoyé pendant toute l'expérience.
Après avoir nettoyé les toilettes ensemble, surtout. Donc, la distance sociale s'est remise tout de suite, et surtout, leur premier choc a été, je dis, je suis journaliste. Donc, l'une me dit, et moi, c'est la reine d'Angleterre. Donc, je dis, mais c'est vrai, j'étais très mal à l'aise. Et d'autant que quand on fait ça, au départ, on se questionne peu, en vérité. C'est-à-dire qu'on se dit, je vais dénoncer une situation sociale. Ouais. Donc là, vous êtes dans votre travail de journaliste, bien pensant, j'allais dire. Mais il y a de ça, bien sûr. Je vais révéler que le travail précaire est compliqué, je vais montrer les dessous de tout ça. Et donc, vous posez peu de questions. Et c'est chemin faisant qu'on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est-à-dire,
qu'est-ce que je fais là?
Oui, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je leur dis? Vous êtes de plus en plus à l'aise, on vous invite. On fait un barbecue dimanche. Alors moi, je m'étais fixé comme limite de ne pas dépasser tout ce qui était travail. C'est-à-dire, je veux montrer des gens au travail, donc je ne les vois pas chez eux. Et donc, je disais, non, je ne peux pas, etc. Mais on est de plus en plus... Moi, j'étais de plus en plus mal à l'aise, en fait. Ce qui ne me posait aucun problème au début, m'en a posé au fur et à mesure, oui, bien sûr.
Et finalement, c'est toute votre histoire qui est ici résumée, parce que d'un côté, vous faites de la littérature du réel, du reportage du réel, et en même temps, il y a toujours de la fiction. D'ailleurs, je pense que je sais que vous êtes, que petite, votre mère vous emmenait au cinéma, voir des grands chefs-d'œuvre du cinéma, que vous aviez en fait ce goût pour l'art, que vous lisiez beaucoup, vous avez fait des études de lettres, et puis en même temps, il y a cette tension paradoxale avec une littérature du réel, et c'est peut-être cette tension, finalement, ce réel qui est quand même toujours un peu fictionnalisé, qui fait que vos livres sont si forts, parce qu'au fond, ils sont très construits, ils sont très convaincant, ce ne sont en fait pas des reportages in fine, quand ça devient des livres.
Ah, je suis toujours gênée quand on me dit ça, pour plein de raisons. Parce que la première chose, fictionnaliser, non, c'est-à-dire que, oui, bien sûr, c'est des techniques du récit, ça c'est sûr. Et c'est des techniques d'écriture romanesque, pour le dire comme ça, mais d'écriture. Donc,
vous pensez au lecteur?
Je pense à moi, d'abord, parce que j'aime écrire comme ça. Donc moi, j'aime écrire, donc c'est vrai que c'est une chance. Et aussi au lecteur, c'est-à-dire que je lis beaucoup, j'aime lire, j'aime que maintenir une mode de récit, ça c'est sûr.
Une dramaturgie,
ça c'est sûr. Mais c'est vrai, C'est-à-dire que il n'y a pas une chose que vous pouvez prendre dans ce livre qui ne soit pas vraie. Par exemple, je suis toujours très gênée d'écrire « il pense que », par exemple, parce que j'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête. Mais à la fois, si quelqu'un vous dit « voilà, j'ai pensé que », vous avez le choix de deux points, ouvrez les guillemets, j'ai pensé que, etc., etc., ou l'écrire au mode indirect. L'écrire au mode indirect est 10 fois plus fort. Donc...
Et ouais, c'est passionnant ce que vous dites. Et surtout, on entend, malgré tout, dramaturgie, construction, amour du texte qui tient, malgré tout, vous voulez que ce soit vrai.
Things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know she was your girl. You showed her the world, but fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder, all I could do was hold her. Only made us closer until July. Now I know that you love me, you don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my mind all the time. Did I cross the line? Well, good things don't last, and life moves so fast. I'd never ask who was best.
C'était Billie Eilish, Wildflower.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Je m'appelle Nassim. J'ai 29 ans.
Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative ?
C'est des victimes qui rencontrent des détenus.
Oui, c'est ça.
Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place. On ne suggère rien. On écoute. On accueille inconditionnellement.
Vous avez reconnu la bande-annonce de « Je verrai toujours vos visages »
oui.
de Jeanne Herry sur la justice restaurative. Et c'est beau cette idée, on ne parle pas à la place, on le rencontre, on le laisse parler, c'est un peu ce que vous disiez juste avant, quand vous disiez, en fait, dans l'efficacité de l'écriture, alors que je veux rendre compte du réel, c'est votre éthique de journaliste et de reportage, et vous avez même refusé, quand je disais c'est plus du reportage, vous disiez si, c'est encore du reportage, mais pourtant vous disiez, c'est plus efficace quand même au style indirect. Comme si quelque chose marchait mieux quand on dit « elle pense que » plutôt que de citer, entre guillemets, l'expression directe de la personne.
Alors, c'est vrai d'un point de vue, d'après ce que je pense, c'est vrai d'un point de vue stylistique, c'est-à-dire que votre récit est plus maîtrisé, pour le dire comme ça. Donc, c'est vrai de ce côté-là. Et c'est vrai aussi, très paradoxalement, dans votre rapport aux sources, c'est-à-dire que dans le réel, évidemment, vous parlez de quelqu'un qui existe vraiment. Et cette personne-là parle. Et donc au début, quand vous êtes jeune journaliste, vous dites « le vrai de vrai, c'est quand j'écris deux points, ouvrez les guillemets, et je vais citer quelqu'un. Là, il m'a vraiment dit ça. »
Et là, vous allez avoir plein de problèmes.
et en fait, les problèmes commencent, parce que ces citations sont justement les zones grises du journalisme. En tout cas, je parle en presse écrite, hein, bien sûr, à l'antenne, c'est autre chose. Mais ces citations, le type vous admet, ou la femme ne vous a jamais dit ça exactement comme ça. En tout cas, il vous a parlé une heure, vous allez garder trois phrases, donc vous allez garder ce qui vous arrange, disons-le comme ça, et vous allez l'écrire d'une certaine façon. Alors, soit vous allez axer sur une façon de parler avec des gros mots ou des choses comme ça, soit au contraire, vous allez lisser son langage. En tout cas, vous allez fabriquer une autre façon de le dire que celle qu'il vous a vraiment dit. Et les gens ne s'y reconnaissent pas forcément. Et moi, chaque fois que j'ai eu des problèmes avec les gens dont j'ai rendu compte, c'est justement dans les citations, l'endroit où vous pensez être, entre guillemets, le plus tranquille. Et donc, de plus en plus, je passe au style indirect, parce qu'au moins, la subjectivité est assumée. C'est-à-dire, il dit que telle chose, sans ouvrir les guillemets, ben c'est vous retenez l'essence d'une conversation telle que vous l'avez entendue.
Et la personne l'accepte plus, même l'accepte si c'est un petit peu plus en décalage par rapport à ce qu'elle a dit.
Exactement. Il l'accepte beaucoup plus qu'une façon de retravailler une citation. Et alors, l'autre chose, c'est que, de plus en plus aussi, une chose que je ne faisais pas du tout au début, c'est que je lis aux gens ce qu'ils vont dire. Si j'ouvre les guillemets, je les appelle avant publication, si j'ai le temps, bien sûr, hein, parfois en étant en urgence, et je leur dis, voilà ce que vous allez dire. Je me serais arraché la langue plutôt que de le faire il y a 30 ans, mais maintenant je le fais, alors je ne le fais pas à Emmanuel Macron.
Pourquoi vous avez changé?
Parce que, évidemment, il y a des gens qui ont des agences de communication, qui sont Emmanuel Macron, je ferai tout pour ne pas lui lire, ou je sais pas, des gens dont c'est la profession. Parce que c'est la première fois qu'il parle à un journaliste qui ne se rend pas compte de ce que c'est qu'un propos écrit, et que souvent, il ne le mesure pas. Et un papier peut déchirer une vie.
Ouais, et c'est ça qu'on sent vraiment dans tout votre parcours, cette attention, en fait, aux gens, à ce qu'ils pourraient ressentir, là où ils sont exactement. C'est ça qui rend votre travail si fascinant et si précis, comme une générosité du regard, au fond. Et c'est pour ça que je voulais construire cette émission dans un balancement entre la fascination pour les monstres, les grands assassins, et puis les gens, au fond, normaux.
Je ne suis pas fasciné par les monstres,
voilà, c'est ça, j'ai compris.
Le redis.
Mais par exemple, le livre d'Emmanuel Carrère sur Jean-Claude Roman, il est fascinant parce qu'il y a cette fascination.
Oui, mais la démarche de Emmanuel Carrère, elle est tout à fait autre. C'est-à-dire que il y a quelque chose de biblique qui est très assumé d'ailleurs, hein, sur le malin, l'adversaire. Donc,
l'adversaire, le diable.
Le diable, voilà. Donc c'est autre chose. C'est-à-dire, mais moi jamais je le ferai de cette manière-là.
Florence Omna, on a entendu la bande-annonce de ce film plein d'espoir de Jeanne Herry, Je verrai toujours vos visages, sur la justice restaurative, sur cette idée que peut-être on peut réparer en faisant autrement, en créant des relations, une capacité d'écoute, en fait, tout ce pourquoi vous militez.
Oui, et je pense que le journalisme, je critique mon métier parce que je l'adore, donc vous l'avez bien compris, mais je pense que le journalisme a tout intérêt à se rapprocher des gens dont il parle. Je parle évidemment des puissants, mais au contraire de l'autre côté, parce que on a un très gros déficit d'image, enfin, et de perception. Quand j'ai commencé à être journaliste, on vous disait « Ah, vous êtes journaliste, c'est formidable, etc. » Là, maintenant, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que... Et ça, à la fois dans notre relation aux personnes en France qu'on interviewe, mais aussi sur des terrains de guerre. C'est-à-dire que quand on était journaliste et qu'on écrivait presse sur sa voiture il y a 30 ans, les fusils se baissaient, les canons se baissaient. On disait « Attention, les journalistes, ils ne sont pas partie prenante des conflits. Aujourd'hui, vous êtes une cible. Vous écrivez presse, on vous tire dessus. »
Ça doit être dur.
Ah, ça a complètement changé, bien sûr, parce que les journalistes, il y a cette image qui a évolué, et pour partie par la faute de la presse elle-même. Hein.
Florence Omna, qu'est-ce qui vous donne vraiment confiance ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, le fait tout simplement d'être là, enfin, je ne sais pas quoi vous répondre, c'est vrai que j'ai confiance, mais je ne sais pas pourquoi.
Oui, parce que vous traversez des choses dures, vous les enregistrez, vous les donnez à lire, vous les donnez à comprendre, vous nous donnez à écouter d'autres vies que la vôtre, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Carrère, encore lui. Et en même temps, il y a quelque chose qui reste optimiste, au fond, dans ce regard. Il y a quand même une confiance en la vie malgré tout. C'est peut-être d'ailleurs cette confiance que vous avez réussi à maintenir pendant vos cinq mois de captivité en Irak. C'est quand même ça aussi.
Oui, mais je pense que les humains sont à la fois pires que ce qu'on pense et à la fois bien moins pires aussi. Et donc, c'est vrai je me lasse pas de fréquenter mes semblables, si j'ose dire.
On n'est pas à l'abri de bonnes nouvelles, quoi.
Exactement.
Alors, on a parlé de beaucoup de vos livres qui ont été des grands succès de librairie. Je voudrais qu'on parle un peu d'un échec important pour vous. Quel serait votre plus bel échec ? J'ouvre la question, hein, professionnel ou même au-delà de...
Alors, professionnel, je ne le vois pas comme un échec, mais ça en a été important. À un moment, j'ai voulu faire un livre sur... je me suis installée dans un quartier à côté de Paris, Nanterre, pour ne pas le citer. Et donc, la pire tour de Nanterre, qui était une tour dont on disait infestée de dealers, ça va être terrible, etc., etc. On deal dans le hall de l'immeuble. Donc, je me suis installée là pendant un an et bien décidée à en faire un livre. Donc, j'ai commencé à l'écrire.
J'en ai écrit la moitié. Il se serait appelé comment ?
Il n'y avait pas encore de titre, mais bon. Et donc j'étais très emballée, très, très enthousiaste. Et quand j'ai relu, j'ai commencé à le relire, donc je me suis dit, bon, c'est pas terrible. Puis je l'ai réécrit, je l'ai réécrit deux fois, trois fois, et j'y suis jamais arrivée. C'était plus fort que moi. Je n'arrivais pas à en parler de la façon dont j'aurais voulu le faire.
Mais vous en parlez là avec l'air d'avoir apprécié cette traversée de l'échec.
Ouais, il faut les apprécier, ces échecs, parce que je ne me tiens pas battue pour autant. Peut-être un jour ça reviendra d'une autre façon, mais je pense qu'il faut savoir à certains moments se confronter à ne pas savoir, justement.
Ce sera la conclusion. Merci beaucoup, Florence Omna. Se confronter à ce qu'on ne sait pas, c'est un peu tout votre métier d'ailleurs. Allez voir. Et c'est ainsi d'ailleurs que je résumerai votre philosophie de la vie. Telle que je l'ai entendue, je dirais allez voir et se demander ce qu'on fait là. Et être capable d'accueillir ce à quoi on ne s'attendait pas. Voilà, on va couvrir une inondation et on rencontre des gilets jaunes. Et heureusement, on est capable de changer de regard et d'ouvrir les yeux. Une philosophie du réel, je dirais de l'aventure à la fois au coin de la rue et au bout du monde. Une philosophie dans laquelle on essaye de rencontrer d'autres vies que la sienne et de se mettre à la place des autres. Très attentive aussi à, et ça on n'en a pas parlé, à comment les gens parlent. Dans vos livres, on entend les gens parler. Mmh. Et ça, c'est incroyable. Je comprends pourquoi vous avez voulu dire que ça restait du reportage, même si c'était construit. Enfin, je conclurai en disant une vraie générosité, une générosité du regard. Et c'est ça qui est si touchant dans votre travail. Merci beaucoup, Florence Omna.
Merci à vous.
Cette émission a été préparée par Estelle Gap, Audrey Carme et Laura Dumez, à la programmation musicale Valentine Chaudebois. Elle a été réalisée par Alicia Vulot avec à la technique Laurent Baudouin. À demain.